si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, alle lieben Funkzuhörer von der Welle 102.9 von unserer Radiosender Judaïka. Aujourd'hui, nous allons surfer sur nos ondes en Frenchy, en Irlandais, saupoudré d'Allemand et un peu d'Alsacien. Il y a des jours dans la vie où tout va, ton cœur est rempli de joie de vivre, tu apprécies chaque instant, c'est juste euphorisant d'être devant cette forêt de micros. Le rouge est allumé, moteur ça tourne. Ravi de vous accueillir et d'accueillir mon invité. Mon invité surprise est avant toute chose un ami, journaliste, un homme rare, fidèle en amitié, excellent journaliste, je vais vous le présenter. Son nom, John Reichenbach, John aux innombrables racines allemandes du côté de son papa, irlandaise du côté de sa maman et alsacienne côté études universitaires à Strasbourg, où il a tout appris. Il a appris quoi? Ben, tout simplement la vie. Très heureux, cher John, de t'accueillir devant notre flamboyant studio radio, chez Nostuto Bisch. Happy to see you, John.
Salut, André. C'est tellement sympathique de te retrouver après toutes ces années.
C'est vrai qu'on a beaucoup bourlingué ensemble, hein, à la télévision. On est parti en tournage ensemble. Étais même rédacteur en chef adjoint. T'as fait plein de choses dans ta vie.
Oui, c'est ça. Je suis resté bien une quarantaine d'années en Alsace. Et puis après, je suis parti tenter l'aventure journalistique un petit peu dans le nord de la France.
Dans le nord de la France, c'est vrai, du côté d'Amiens et de Lille, hein, je crois.
J'étais à Amiens et j'étais rédacteur en chef à France 3 Nord-Pas-de-Calais, une grosse station dans le nord de la France avec beaucoup d'actualité.
Ah ouais, j'imagine.
C'était vraiment passionnant.
Ouais. Parle-moi un peu de ton enfance. Tu as grandi où, John?
Alors moi, j'ai grandi en Allemagne, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est un peu la raison de ma visite ce matin, c'est que ma mère est irlandaise. Et donc, elle a rencontré mon père à Londres dans les années 50, à la fin des années 50. Ils se sont mariés à Londres. Wow. Et puis ensuite, ils sont allés vivre en Allemagne pendant quelques années. Donc, je suis né en Allemagne. Et puis ensuite, on est venu au début des années 70 en France et donc, je suis imprégné de culture française déjà depuis plus d'une cinquantaine d'années.
C'est génial, triple nationalité. Alors, tu es allemand, irlandais, alsacien,
exactement, un vrai européen.
C'est très beau, ouais. Alors, tes études primaires, tu les as faites en Allemagne?
Alors, j'ai fait quelques classes, effectivement, en Allemagne. Puis, j'ai terminé l'école primaire en France, le collège, le lycée, l'université, dans le nord de la France. Et puis, comme tu le disais, j'ai fait le centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg et je suis resté finalement en Alsace pendant tout ce temps.
C'est magnifique, là, Strasbourg, c'est un décor de cinéma, la ville de Strasbourg.
Oui, c'est un vrai pays de cocaïne. D'ailleurs, là, j'ai passé quelques années dans le nord de la France. Le nord, c'est formidable, tu sais, les ch'tis,
le fromage qui pue, tout ça.
Voilà. Et j'aime bien les frontières, en fait. La Belgique est juste à côté, l'Angleterre à 1h30 de train de Lille. Mais l'Alsace, c'est pareil, c'est les frontières.
Ça laisse des traces,
l'Allemagne, la France, la Suisse, on n'est pas loin de l'Italie. Ouais. Donc j'adore cet endroit. J'y reviens là, dans les mois qui viennent. Je reviens en Alsace.
Habiter complètement en Alsace?
Oui, complètement.
De l'autre côté du Rhin, je crois, hein, tu avais habité.
Oui, à Kiel, oui.
Ouais, je sais, je connais, c'est beau là-bas chez toi. Alors, parle-moi un petit peu de tes études. Est-ce que tu étais un élève studieux, rêveur, bosseur?
Écoute, c'était quand même pas évident quand je suis arrivé en France parce que j'avais 10 ans, je ne parlais pas un mot de français. Et donc, il a vraiment fallu se battre. Et justement, c'est amusant parce qu'il y a 5 minutes avant d'entrer en studio, j'ai eu mon institutrice de l'époque, tu vois, des années 70, avec qui je suis toujours en contact. C'est vraiment l'une des meilleures amies. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais dans mon livre, je le dédie à cette institutrice qui m'a appris le français. Et tu vois, 55 ans après, je suis toujours en contact avec
c'est
elle
génial.
Parce que je lui dois beaucoup.
Mais c'est ce que je disais, tu étais un garçon fidèle et tu as cette fidélité au fond de toi. tu n'oublies pas les gens qui t'ont avec qui tu as cheminé.
Il y a tellement de bonnes personnes sur cette planète et donc voilà, il faut aller vers elles, il ne faut pas perdre le fil.
Et je crois qu'il faut être positif dans la vie. C'est vachement important. Et alors, ton métier de journaliste, qu'est-ce que tu gardes de ton métier de journaliste? On est toujours journaliste dans l'âme, toute sa vie.
Oui, alors là, je suis à la retraite depuis quelques mois, mais comme tu dis, on reste journaliste tout le temps. Et ce qui est génial dans ce métier, c'est effectivement la découverte permanente
de l'autre.
Les rencontres, c'est une aventure.
C'est enrichissant, quoi.
Au quotidien, le matin, tu ne sais pas très bien ce que tu vas couvrir pour le soir. Et puis après, quand on est en région, on a la chance aussi de pouvoir toucher un peu à tout. On touche à la culture, au sport, à la politique. C'est ça qui est fabuleux.
Tu as une belle voix, hein. Tu as une voix de radio, ça se sent. Hein.
J'ai fait beaucoup de radio. J'ai travaillé 5 ans à Radio France, ici en Alsace, mais aussi pour France Inter, pour France Culture. J'ai couvert la chute du mur de Berlin, par exemple. Et puis,
quand Rostro jouait du violoncelle, là, tu étais à ce moment-là, quand le mur est tombé.
Oui, j'y étais surtout avant les grandes manifestations à Leipzig.
C'est de là où vient ton papa, hein, je crois.
Exactement. Et donc France Inter m'avait envoyé là-bas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui parlaient allemand. Et il fallait y aller de manière un peu clandestine parce que je n'avais pas de visa pour y aller. C'était encore l'Allemagne de l'Est. Et puis après, j'ai quand même travaillé aussi une bonne dizaine d'années pour Europe 1. J'étais le correspondant sur l'Est de la France. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de radio.
J'adore ça. Ça s'entend, ouais. Écoute, en tout cas, tu as une retraite très active. Hein. C'est vrai que tu t'es pas affalé dans un fauteuil. Tu vis, tu bouges. Tu as écrit un beau livre dont on va en parler tout à l'heure. On va écouter un tout petit peu de musique. Une musique que tu aimes bien, dont tu m'as conseillé. John, jette un coup d'oreille sur cette musique, ça va te plaire. Mets-nous voir cette musique, la musique 2, s'il te plaît, Thomas. Belle voix, John, hein, une Irlandaise.
Formidable, Sinéad O'Connor, vraiment,
c'est une femme courageuse. Hein.
Incroyable, elle est malheureusement décédée l'année dernière à Londres, mais c'est vraiment l'une des plus grandes artistes irlandaises. Et une femme extrêmement courageuse, anticonformiste. Elle s'était battue, elle avait dénoncé les abus sexuels perpétrés au sein de l'Église catholique, notamment sur une télévision américaine en 92. Et elle avait déchiré la photo du pape.
Oui, je me souviens.
Et
de ça
avait
incroyable.
Été vraiment un geste extrêmement fort. Ouais. C'était un peu une lanceuse d'alerte avant l'heure. Et puis tous les scandales sont arrivés par la suite.
C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est une étoile dans le firmament.
Complètement.
C'est dommage, quoi. Quelle voix, ouais. Alors, parle-moi un petit peu de tes racines irlandaises. Je sais qu'en Irlande, il y a la Guinness, il y a le trèfle. Mais parle-moi un peu d'images. Fais-nous un peu rêver de l'Irlande, des paysages. Je ferme les yeux et raconte-moi Tranée, les lacs, tout ça. Comment c'est l'Irlande?
Alors, écoute, d'abord, c'est une petite île. Enfin, il y a 5 millions d'habitants en Irlande du Sud, dans la République, 2 millions dans le Nord. Donc, tu vois, ça fait 7 millions d'habitants. Petite île, mais effectivement, une île mythique, puisqu'on a tous, notamment en France, une image de l'Irlande.
Du cottage avec les toits de chaume.
Voilà, les lacs, les montagnes, la mer, les rochers, les falaises, la verdure. Les moutons, etc.
C'est magnifique.
Donc tout ça existe encore, évidemment, notamment sur la côte ouest. Mais en même temps, aujourd'hui, l'Irlande a tellement changé, tu vois, en l'espace de 30 ans. C'est un pays presque méconnaissable.
Et pourtant, il y a bien longtemps, il y avait la misère, la famine dans les années 1850. C'est
oui.
un pays très pauvre.
Bah, 1850, 1848, 52, donc pendant 4 ans, c'était vraiment la famine due à une maladie de la pomme de terre, puisque les paysans se nourrissaient essentiellement à partir de pommes
bien
de terre. Il y a eu 1 million de morts. Un million de morts sur une population de... À l'époque, il y avait plus d'habitants qu'aujourd'hui. Il y avait 8 millions d'habitants
ah
sur
oui.
l'île.
Ah oui, ils sont partis en exode. Ils sont tous partis.
Ils sont partis. Énormément d'Irlandais sont partis, notamment aux États-Unis. Je crois qu'il y a autour d'un million. C'est
wow.
énorme. Un
ouais,
million
ouais.
de personnes sont parties aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, en Australie, Nouvelle-Zélande, etc.
Et est-ce qu'il y a aux États-Unis des Irlandais très connus, des gens célèbres? Est-ce que tu connais des noms?
Ah oui. Alors déjà, on peut commencer par les présidents.
JFK crois,
alors évidemment John F. Kennedy, premier président catholique irlandais, mais sur les 46 présidents américains, Biden est le 46e me semble-t-il,
ouais.
Sur les 46 présidents, il y en a 23, donc la moitié
qui sont
des
irlandais
sont de lointaines origines irlandaises. Kennedy, c'était le premier catholique, Biden est le deuxième catholique, il est également très populaire en Irlande, il a fait un voyage extraordinaire l'année dernière. Et donc voilà, ça c'est pour les présidents américains. Puis après, vous avez, alors ça j'en parle dans le livre, vous avez tous les acteurs américains, Jack Nicholson,
ah
son
ouais.
grand-père paternel était d'origine irlandaise, Tom Cruise, trois de ses grands-parents avaient des origines irlandaises, Clooney, il est venu en Irlande en 2019, il a visité la terre de ses ancêtres, Grace Kelly, évidemment,
ah
la
ouais.
princesse de Monaco, grande actrice également. Et, alors elle c'est carrément ses parents qui venaient d'Irlande. Mais je pourrais continuer comme ça pendant des heures, Bruce Springsteen, Clint Eastwood,
ah ouais,
etc.
Donc,
etc.
tu as ton livre en main, que tu m'as aussi « Comprendre les Irlandais comment tu, ça se fait que tu as écrit ce livre? Est-ce que tes racines Irish, est-ce que les racines t'ont chatouillé un peu pour, avec tes schloppes, avec des Irish slippers, les schloppes, tu as rédigé ce beau livre à ce moment-là? Et comment tu as fait pour rédiger ce beau livre?
Écoute, c'est vrai que depuis tout petit, depuis que je suis, depuis ma première année, si tu veux, chaque année, j'allais faire un voyage en Irlande avec mes parents, notamment ma mère. D'ailleurs, il y a une petite photo en ouverture du livre.
Ah oui, avec ta maman. Mais qu'est-ce que tu lui ressembles? Et alors, en plus, John, je trouve, quand j'ai vu cette photo, je trouvais que tu avais déjà un regard caméra. Tu regardais déjà l'objectif.
Bon, t'es gentil.
Non, mais c'est vrai.
Mais donc voilà, l'Irlande, effectivement, je l'ai un peu dans le sens et j'y vais chaque année depuis tout petit. Et puis, c'est vrai qu'on est pris dans ce pays par la littérature, par la poésie.
C'est la musique.
C'est un pays de poètes et puis la musique
la
aussi.
Musique,
hein.
Ouais.
Et là, on le verra au cours de cette émission, mais c'est vrai que la musique est extrêmement diverse.
Présente.
Il y a la musique traditionnelle, mais il y a aussi du Sinéad O'Connor.
Bien sûr, il y a aussi du U2,
Van
ça.
Morrison,
ouais.
etc. etc.
Et alors, dans les pubs aussi, il y a des...
Ça
des,
chante.
Des, ça chante, ça danse avec des violons, la Guinness coule à flot, c'est des moments merveilleux.
Donc, il y a
ça.
Une autre approche avec les gens, c'est-à-dire que les Irlandais vous parleront très facilement au pub, ils vont chanter avec vous, ils vont blaguer
et,
avec
et
vous.
Et puis, c'est un mélange, les vieux comme les jeunes, tout le monde est ensemble.
C'est intergénérationnel. Les familles, les vieux, les jeunes se retrouvent ensemble. Il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est encore très, très prégnant aujourd'hui. Et
alors, parle-moi de Comprendre les Irlandais. Tu as mis combien de temps pour écrire ce livre?
Alors, c'est un livre qui fait partie d'une collection Comprendre les peuples.
Les peuples, ouais.
Et donc, là, c'est l'huitième numéro sur, en l'occurrence, les Irlandais. J'ai quand même travaillé... une grosse année là-dessus.
C'est là que tu as mis tes schloppes, les schlippers.
Voilà, shippers, exactement.
Les Irish slippers, c'est comme ça qu'on dit.
Et je me suis mis aussi un petit peu à l'abri dans le Connemara pour
génial.
Être complètement tranquille
wow.
Et pour pouvoir bosser tranquillement. Mais tu vois, en tant que journaliste, il fallait quand même. Il y a quand même une trentaine de chapitres, donc beaucoup de recherches. Et puis après,
beaucoup de rencontres
c'est
aussi.
C'est tout des rencontres. Et puis ensuite, l'écriture.
Ouais, c'est ça. Elle est belle ton écriture, je trouve. Elle est vraiment non. C'est vrai que c'est riche, c'est plein d'infos, c'est intéressant. Et on peut pas dire c'est pas un guide touristique, c'est pas un Lonely Planet.
Non,
ça n'a
non,
rien
non,
à
non.
voir.
Le slogan d'ailleurs de cette collection, c'est pas une seule adresse d'hôtel,
ouais,
pas une
ça.
Seule description touristique. C'est un guide assez spéciale à l'attention des voyageurs qui ne veulent pas à tout prix éviter les habitants du pays qu'ils visitent.
Ouais, extraordinaire.
Donc effectivement, c'est une approche très humaine.
C'est 300 pages hein, que tu as fait, plus de 300 pages. Quel travail, ouais. Alors, tu es allé à la rencontre des nouveaux Irlandais. Sont-ils heureux, moins pauvres donc aujourd'hui?
Oui, alors évidemment, le pays a complètement changé entre 1990 et 2024. C'est plus le même pays. C'était le pays le plus pauvre d'Europe dans les années 70, au moment où ils ont adhéré à l'Union européenne. À l'époque, c'était la CE. Et aujourd'hui, c'est un pays extrêmement riche, dû à ses connexions. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Alors, d'abord, l'entrée dans l'Union européenne.
Ouais, c'est ça.
Beaucoup d'investissements européens, de fonds européens ont inondé le pays.
Ça sert aussi à ça, les institutions européennes. C'est aider les plus démunis, quoi.
Exactement, c'est ce qui se passe actuellement pour les pays de l'Est. Bon, à l'époque, l'Irlande était l'un des pays les plus pauvres d'Europe.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches. Alors, je voulais revenir sur les Américains. Effectivement, les connexions culturelles avec les Américains, puisqu'il y a tellement d'Irlandais qui ont émigré aux États-Unis dans les années 1850-1920, eh bien, maintenant, ils sont en train de récolter un peu ces fruits de ces relations, culturelles, puisque les Américains investissent massivement en Irlande.
Et l'Irlande, en fait, a gardé les euros. Ils les ont gardés.
C'est pas qu'ils les ont gardés, ils sont entrés dans l'euro, ils ont eu l'euro d'entrée de jeu, enfin dès qu'ils pouvaient, effectivement, ils ont l'euro, contrairement au Royaume-Uni, qui n'a jamais eu l'euro, en fait.
Ouais, qui est parti, qui ont quitté, quoi.
Et qui a quitté l'Union européenne, ouais.
Alors, on va écouter un peu de musique, parce que c'est vrai que l'Irlande, c'est aussi une réputation, elle a une grande réputation musicale. On va écouter une musique U2, tu connais, One. On va écouter ça, pour reposer nos oreilles. Alors, on le disait à l'instant, John, l'Irlande a une réputation musicale. Hein, et U2, ça fait 47 ans qu'ils chantent ensemble.
Incroyable.
Ils ne se sont jamais séparés.
Incroyable.
C'est pas comme les Beatles tu vois.
Ils ont commencé, je crois, dans les années, tout au début des années 80, peut-être même 70, des années 70. Et ils étaient encore, je ne sais pas si tu as vu ça, mais sur scène à Las Vegas à l'automne dernier, c'est eux qui ont inauguré l'énorme sphère, l'énorme salle de concert de Las Vegas, numérique, la plus grande salle de concert du monde. Et donc, c'est eux qui ont inauguré ça, donc c'est incroyable, tu vois, presque 50 ans de présence sur les scènes mondiales.
Et c'est des gens hyper connus, quoi. Tout le monde les connaît, quoi.
Ouais,
ils viennent de l'Irlande. Et c'est aussi ça le caractère irlandais, c'est de rester unis, de ne pas se séparer. Il y a des gens comme beaucoup de groupes se sont explosés. Parce que voilà, l'un voulait peut-être devenir plus riche que l'autre, et eux, ils sont restés ensemble.
Et donc,
toujours là, et on les connaît toujours.
Ils sont toujours là, et puis effectivement, il y a une variété musicale.
Absolument,
sur cette petite île de 5 millions d'habitants. Je parle de la République, où Van Morrison, qui vient de Belfast, est aussi l'un des plus grands chanteurs au monde. Effectivement, ils ont des pointures planétaires, c'est assez incroyable.
Ouais, c'est incroyable, ouais. Et alors, tu te souviens, ils sont venus au Racing dans les années 90,
oui,
je crois.
Oui, on y était tous les deux.
Ouais. Ouais, je me souviens, j'étais avec
quel
ma caméra.
Concert à la
c'était
Méno.
Extraordinaire. Ah ouais, c'était extraordinaire. C'était lumineux, c'était beau.
Ouais.
Quel souvenir. Revenons un peu à ton livre, John. Est-ce que les Irlandais, est-ce qu'ils sont difficiles à cerner aujourd'hui? Est-ce que...
Bah, si tu veux, c'est un peuple multiple. Tu vois, tu as les Irlandais qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis en Australie. Il y a des liens aussi très forts, quoi qu'on en dise, avec l'ancien colonisateur, entre guillemets, les Anglais. Énormément d'Irlandais qui sont partis en Angleterre. Ma mère, par exemple, est partie en Angleterre.
Vivre en Angleterre ?
Oui.
Elle a quitté l'Irlande ?
Bah, tu sais, ma mère, elle est partie, elle est née dans les années 30. Elle est partie à l'âge de 16 ans, comme tous les jeunes à l'époque partaient en Angleterre.
Parce qu'elle n'avait pas de travail.
Et donc, elle habitait, c'est ce que je raconte dans le livre aussi, elle habitait à 30 km de la mer. Elle n'avait jamais vu la mer jusqu'à l'âge de 16 ans.
Wow.
Elle a pris le bateau pour Liverpool.
Wow. Et puis, quel changement, quoi.
Et donc, beaucoup d'Irlandais ont des connexions aussi avec l'Angleterre. Donc voilà, c'est un pays multiple. Moi, j'ai des tantes qui ont vécu toute leur vie en Angleterre. Elles sont revenues en Irlande aujourd'hui, mais elles sont presque anglaises aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Et
c'était quoi le taf de ta maman ? Qu'est-ce qu'elle a fait comme travail ?
Écoute, elle a commencé vraiment... comme ouvreuse de cinéma.
Wow.
Et puis après elle bossait dans un restaurant,
elle a fait tous les métiers, quoi.
Voilà,
tous
exactement,
les petits métiers.
Mais elle a bien réussi. Et quand elle est arrivée à Londres, ce qui était incroyable, c'est qu'elle a découvert la culture, tu vois, les concerts, les chanteurs. Elle me disait qu'elle était allée voir Maria Callas.
Wow. Ouais.
donc vraiment un autre monde quelque part quand tu venais du fin fond de l'Irlande, de l'Ouest notamment, notamment rurale, paysanne.
Et ta curiosité journalistique, c'est ta maman qui te l'a apporté, cette, d'avoir envie d'aller vers l'écriture, vers le journalisme ?
Peut-être. Effectivement, on a été une famille de voyageurs, tu vois. On n'est jamais resté sur place. On a beaucoup voyagé. On a changé de pays, on a changé de langue. Et donc ça t'enrichit évidemment.
Absolument.
Beaucoup.
Bah, partir, c'est apprendre. D'aller
exactement.
Ailleurs, c'est rencontrer d'autres gens. Et ça, c'est vrai, dans notre métier de journaliste, c'est ce qu'on a fait. On a souvent voyagé, on a été un peu partout.
Ouais.
Et c'est intéressant tout ça. Et alors, dis-moi un petit peu, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment beaucoup dans ta thématique, dans la page 247, tu parles de la tourbe. La tourbe, c'est quelque chose d'important en Irlande.
Oui, alors ça commence par l'odeur de la tourbe. Alors, je vais peut-être vous dire d'abord ce que c'est que la tourbe. C'est une sorte de mousse de charbon, mais beaucoup plus jeune, si tu veux. Et c'est de la terre, en fait, qu'on peut creuser dans les tourbières marécageuses, notamment de l'ouest irlandais. Et donc, ça, tu le sèches. Et puis ensuite, tu le brûles. Et donc, les gens se chauffaient avec ça, cuisinaient avec ça.
C'est à même le sol. Les montagnes sont tapissées de tourbe.
Exactement, exactement. Et donc c'est de la décomposition de plantes, si tu veux, due au climat, la pluie, les températures. Et donc, au bout de milliers, de millions d'années, ça donne de la tourbe, comme le charbon. Mais effectivement, ça peut se ramasser à la pelle.
Et dans cette tourbe vivent d'innombrables insectes, des papillons.
Il y a une flore incroyable. Alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les Irlandais se chauffaient à la tourbe pendant des siècles. Et ça c'est en voie de se terminer.
Ah ouais. Pourtant, ton livre, tu dis qu'il y a 14% de la population qui l'utilise toujours,
oui,
qui se chauffe toujours,
oui,
avec de la tourbe.
Mais c'est 86% qui ne se chauffe plus.
Oui, c'est vrai. Donc,
avant, tout le monde se chauffait à la tourbe. Parce qu'en fait, il faut protéger l'environnement. La tourbe capte énormément de carbone. Et donc, aujourd'hui, on essaye de ne plus exploiter la tourbe. Pour des raisons climatiques, en fait.
J'aime bien la petite phrase aussi que j'ai lue dans ta thématique. On peut arracher les Irlandais à la tourbe, mais il est impossible d'extirper la tourbe aux Irlandais.
Ouais,
c'est joli,
ouais,
ça.
Ouais.
Non,
c'est vrai que la tourbe, ça fait partie de la culture irlandaise.
C'est un peu la mémoire du pays.
Je parlais de l'odeur tout à l'heure, dans les villages.
C'est quoi comme odeur ? Ça sent comment ?
C'est une odeur assez douce, en fait. Elle est moins âcre que le charbon. Tu vas dans le nord de la France, le charbon, il y a 50 ans,
ouais,
ça sentait le charbon.
Ça sentait le charbon, ouais.
Et c'est pas forcément une odeur très agréable. La tourbe, c'est plus doux. Et donc,
et c'est fleuri, la tourbe ? Il y a des petites fleurs qui poussent
Alors, la tourbe en elle-même, c'est une terre brune, mais effectivement, sur la tourbe, tu as énormément de plantes.
De papillons, des papillons rares.
Tu as effectivement toute une faune et toute une flore vraiment impressionnante et agréable à traverser quand tu prends ta petite voiture en Irlande et que tu traverses le Connemara, par exemple.
Ah ouais, c'est beau, le Connemara. Je connais, j'étais un jour en vacances en Irlande pendant quelques semaines où je me suis baladé avec un bourricot, un cheval qui s'appelait Nelly avec une roulotte. Et j'ai sillonné comme ça la péninsule de Dingle.
Ouais,
qu'est-ce que c'était
incroyable,
beau.
Dans le sud-ouest.
Que de souvenirs extraordinaires. Ouais. Alors, on parlait de musique aussi. On va écouter une musique qui t'affectionne, une poétesse qui a écrit une très belle musique. On va l'écouter avant de se quitter. The first hill in the world, where springs washed into the shiny grass and darkened cobbles in the bed. C'est beau, hein? C'est
très magnifique.
Joli.
C'est
a cappella, elle
chante
vraiment.
Une sublime voix.
Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette gentille
Alors,
dame?
Alors, c'est Lisa Hannigan. Mm-hmm. Elle chante, elle a repris en fait un poème de Seamus Heaney, qui est un prix Nobel de littérature irlandais. Il venait d'Irlande du Nord. Et donc, c'est une ode en fait à la nature, aux saisons. C'est magnifique, Lisa Hannigan, et puis c'est ce poème de Seamus Heaney, qui est vraiment l'un des plus grands poètes irlandais. Il est décédé il n'y a pas si longtemps dans les années 2010.
Elle a une voix magnifique, ouais, hein. Très très beau ce qu'elle fait. Ouais. Alors, la préface de ton livre, tu as un joli petit mot d'un auteur qui a eu un prix féminin en 2004, je crois.
C'est Hugo Hamilton.
Qui dit que l'autre John... Reichenbach a un pied dedans, l'autre dehors, que ton livre est merveilleux. Quel joli mot.
Ouais, non, c'est un très, très grand écrivain, Hugo Hamilton. Il a une dizaine de livres, d'ailleurs, qui ont été traduits en français.
En français,
on les trouve chez l'éditeur Phébus. Magnifique auteur et qui comprend bien son pays, l'évolution du pays, et qui raconte tout ça dans ses livres. C'est un très grand bonhomme.
Ah, c'est bien. Ouais. Puis ça te fait chaud au cœur de lire ça, ce qu'il dit là. C'est...
Oui, il m'a accueilli chez lui dans sa petite maison de Dublin, comme si on se connaissait depuis toujours.
C'est génial. Quelle belle rencontre.
Et on reste en contact et c'est vraiment un merveilleux écrivain.
Alors j'ai ton livre en main. Là. Est-ce que ce livre-là, j'imagine que tu vas le traduire en anglais et peut-être en allemand ? Non ?
Je
Qu'est-ce
ne sais
que t'en
pas,
penses ?
André, tu sais que c'est une collection Comprendre les peuples, donc c'est une collection d'un éditeur français.
Ah, mais si elle a tellement de succès, c'est bien écrit, je pense qu'il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. Quoi. C'est un
oui,
beau livre,
oui,
c'est il est intéressant.
Il y a déjà tu sais, les lecteurs francophones sont nombreux, la Suisse, la Belgique, le Canada,
ben
la
oui,
France.
Ils sont partout.
Donc,
Et puis il y a des Irlandais partout, donc voilà, ils vont tous acheter.
Beaucoup d'Irlandais. Je crois qu'il y a 30 000 Irlandais qui vivent en France. Ça peut les intéresser aussi. Wow. Et puis tous les Irlandais qui apprennent le français en Irlande, c'est intéressant d'avoir un peu le regard, sur leur peuple.
Et puis après, ce peuple-là, tu peux peut-être aussi raconter un jour l'histoire des Alsaciens. Voilà. Raconter un petit peu le caractère des Alsaciens.
Comprendre les Alsaciens.
Comment vaste problème. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Vaste programme.
En tout cas, John, j'étais très heureux de t'accueillir chez nous, là, à notre radio. Tu es venu spécialement d'Irlande pour me parler de ton beau livre. Bon, je sais que tu passes quelques jours à Strasbourg. En tout cas, tu me dédicaceras ton bouquin avant de partir. Merci beaucoup d'être venu chez nous,
Merci
John.
À toi, André. C'était un plaisir.
C'est un plaisir. J'étais même un peu nerveux de te recevoir parce que tu étais un jour mon patron. Et voilà, on a passé des bons moments ensemble.
Merci beaucoup, André.
Vraiment, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Merci, John.
Tu n'as pas changé. Merci beaucoup, André.
Et bon voyage et reste comme tu es. Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée.